I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Louis.
Le mot sororité vient du latin soror, que l'on peut traduire par sœur. Il signifie au Moyen-Âge une communauté religieuse de femmes. Rabelais, au XVIe siècle, délaisse sa connotation religieuse pour désigner plus librement une communauté de femmes ayant une relation, des liens. La sororité n'est donc plus lien de sang ou cercle lié par la foi. Elle s'émancipe peu à peu de ses origines étymologiques. Le terme disparaît ensuite de l'usage pour ne reprendre vie que des siècles plus tard. C'est l'écrivaine Chloé Delhomme qui raconte cela dans son texte « Mes bien chères sœurs » paru en 2019. Dans le chapitre consacré aux aventures du mot « sororité », elle propose deux responsables à cette disparition. D'un côté l'Église, qui appréciait peu qu'en dehors des couvents, les femmes se réunissent. De l'autre, la méfiance des hommes face à ces liens desquels pouvaient jaillir indépendance et autogestion. Chloé Delhomme conclut « Quand un mot n'est plus dit, plus prononcé, ce qu'il désigne disparaît aussi des esprits. » La sororité est de nouveau en lumière et elle est au cœur du livre du jour, un essai personnel choisi par l'écrivaine franco-suisse Marcia Burnier. Elle signe Les Orageuses aux éditions Cambourakis, son premier roman autour des violences sexuelles et des solidarités féminines. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
J'habite dans un appartement avec quatre autres personnes et deux chats. Et donc ma chambre, c'est un peu l'endroit où je suis tranquille. Ça appartient qu'à moi, c'est moi qui ai choisi la déco, c'est le seul endroit où je peux être tranquille. Et donc c'est une assez grande chambre avec un parquet qui grince, deux grandes fenêtres qui donnent sur une cour intérieure et de laquelle je peux observer la vie du voisinage. Alors là, si je me tourne et que je suis dos au bureau, j'ai deux petits rayonnages sur le côté gauche où il y a la fin de ma collection de livres, plus la pile à lire. Et à droite, j'ai deux grands meubles où certains des rayonnages sont utilisés comme bibliothèque, puis un autre grand rayonnage au-dessus de mon lit avec toute une partie des livres. Alors, on a l'impression que c'est très bordélique, mais en fait, il y a quand même un espèce de type de rangement. Il y en a cinq qui sont utilisés par des essais. Alors, ils sont classés par ordre alphabétique, mes romans sont classés par ordre alphabétique aussi. C'est pas moi qui les fais. Je crois que je fantasmais beaucoup d'avoir une bibliothèque rangée par ordre alphabétique. Et puis, il se trouve que pour une sombre histoire de cuisses brûlées à l'eau chaude par accident, j'ai obtenu en compensation de ma copine qu'elle range cette bibliothèque par ordre alphabétique. Et j'essaye de la maintenir du coup depuis un an et demi comme ça. Et ça marche pas trop mal. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour trouver des livres. Ça, je dois lui accorder. Là, tout de suite, à côté de la pile de livres à lire, il y a un livre que j'aime énormément qui s'appelle Po de Dorothy Allison. Alors le titre en entier, c'est propos à propos de sexe, de classe et de littérature. Donc moi, j'ai la version qui a été publiée en 2015 dans la collection Sorcières par les éditions Cambourakis. Mais c'est un livre qui avait déjà été publié en français en 99. Il est sorti aux États-Unis en 94. C'est un livre d'une... Il doit faire à peu près 300 pages. Le mien est extrêmement déchiré. J'ai vraiment mis en pièces la couverture parce que je l'ai lu énormément de fois. La couverture est d'ailleurs très belle. Elle a été faite par une artiste qui s'appelle Mike Batman. Et c'est vrai que Paul, donc je l'ai lu pour la première fois en mars 2016 et j'ai été complètement absorbée. Je l'avais choisi parce que je voyais beaucoup de gens en parler sur les réseaux sociaux de cette réédition, que c'était super. Je crois qu'en 2016, je suis à une période de ma vie où j'ai envie de lire, et c'est marrant parce qu'elle en parle, Dorothy Allison, dedans, mais j'ai envie de lire tout ce qui peut avoir trait aux lesbiennes. Et donc, je me pose pas trop la question du contenu, de ce sur quoi je veux dire, je suis pas spécialement attirée par la quatrième de couverture ou comme ça. Je me dis juste, bah, tout le monde dit que Dorothy Allison, c'est une autrice vraiment emblématique. Bah, j'ai envie de lire ça. Je pense que j'avais vraiment cette espèce de soif de lire des livres à propos de gens qui me ressemblent. Et elle le dit d'ailleurs, elle dit que pendant une grande partie de sa vie, si un livre parle d'une lesbienne, elle le lit, même s'il s'agit de fiction assommante et d'études franchement grotesques. Moi, je pense que j'ai choisi ce livre pour ça, mais par contre, heureusement, c'était ni assommant ni grotesque. Mais donc, je crois que je m'attendais pas à grand chose en lisant ce livre-là. Et là, j'ai été complètement transformée. Enfin, je crois que je l'ai pas lâché. Je l'ai lu pendant plusieurs jours. Je crois que j'ai même annulé des choses que je devais faire juste pour pouvoir le lire. Et c'est vrai que ça, c'est moi, c'est pas spécialement rare, mais c'est un moment que j'adore quand un livre arrive à me prendre comme ça et que j'ai pas l'impression que c'est une corvée de devoir continuer parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et l'autre chose qui est très rare, c'est que moi j'ai peu d'essais qui me font cet effet-là. Hein. Donc c'est une collection d'essais, mais c'est vrai que je trouve ça presque réducteur de dire que c'est des essais. Elle parle de son rapport à elle, à la sexualité, à la violence, à l'inceste, à la manière dont elle écrit, etc. Et donc je pense que je l'ai lu une première fois en étant bouleversée par certaines choses. Et puis ensuite, j'ai acheté tous ces livres. Donc j'ai acheté les livres qui avaient été traduits en français, puis j'ai acheté les livres en anglais, notamment un recueil de nouvelles qui s'appelle Trash, qui va être traduit, mais qui est absolument incroyable. J'ai lu ses romans, et puis ensuite je l'ai relu une deuxième fois, avec du coup toute cette littérature-là en tête. Et je crois que ça m'a à nouveau fait un énorme choc. Parce qu'entre-temps, moi, je m'étais mis à vraiment écrire, à me lancer, quoi. Et du coup, de le relire, parce qu'elle parle beaucoup de la littérature, de son rapport à justement et l'écriture et les livres qu'elle a lus. Et du coup, ça m'a fait une deuxième claque de lire ça. C'était plus juste, je le lisais et que j'avais l'impression d'être représentée en tant que lesbienne, mais c'était encore autre chose. J'avais l'impression qu'elle me parlait en tant qu'autrice. Et Poe, c'est un livre qui m'a fait me sentir autrice. Ce qui était très rare. J'ai encore du mal, après avoir publié Les Orageuses, à me sentir réellement écrivaine ou autrice. Mais je crois que quand j'ai un problème de confiance en moi, ou quand j'ai l'impression de pas être légitime, ou quand j'ai l'impression de pas écrire assez bien pour pouvoir être considérée comme une autrice, eh ben je relis Poe et c'est instantané. Elle me parle directement, comme si c'était Dorothy Allison qui me disait en direct. Mais bien sûr que si, ce que tu écris, c'est de la littérature. Et d'ailleurs, quand j'ai appris que Les Orageuses allaient être imprimées, et pas éditées, mais quand il a été lancé sur presse, je crois qu'on dit, j'ai écrit à Dorothy Allison. Alors, je lui ai écrit via Instagram, ce qui était un peu étrange, mais c'était le confinement, et je crois que j'avais rien à perdre. Et en fait, elle m'a répondu. Et moi, je lui avais écrit pour la remercier, en fait, pour lui dire qu'elle avait vraiment révolutionné ma vie, et qu'elle avait pas juste révolutionné... je sais pas, mon rapport à la sexualité ou quoi, mais elle m'avait presque transformée en autrice, et que pour ça je la remerciais. Et elle m'a écrit quelque chose de très chou. Elle m'a écrit un petit texte et elle m'a souhaité bonne chance, ce que j'ai trouvé très chouette, en tout cas qui m'a énormément touchée. Je pense qu'il y a aussi une autre chose qui m'a fait prendre conscience de à quel point c'est difficile de se dire autrice quand on est une femme, quand on est une femme lesbienne, ou quand on est féministe, c'est la question des conditions matérielles. Et elle, je pense qu'elle va plus loin que... Alors, je crois que j'avais commencé Virginia Woolf, Une chambre à soi, ou Une pièce à soi, dans la dernière traduction. Et je trouvais ça très hyper intéressant. Mais Dorothy Allison, elle parle aussi de sa vie en tant que militante féministe, et donc du fait qu'à un moment donné, elle essaye de créer un centre d'appel pour victimes de viol, qu'elle est éditrice dans un magazine, elle essaye de faire plein de choses, elle a son boulot pour gagner sa vie, elle fait beaucoup de choses, et que du coup donner du temps à l'écriture est compliqué. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que moi, pendant longtemps, j'ai été dans cette espèce de dilemme-là, qui était que je militais dans des organisations féministes. Il se trouve que là, en ce moment, par exemple, j'ai deux travails. Je travaille au planning familial et dans une association d'aide juridique pour les migrants. J'essaye de faire aussi un peu de bénévolat. Enfin, voilà, ma vie est... Je pense que j'essaie de la remplir en fonction de ce que je pense être juste et de comment redonner mon temps pour en gros faire avancer une cause. Mais du coup, ça donne pas tellement de temps pour l'écriture. Et je pense qu'à un moment donné, se dire autrice, c'est aussi accepter de donner du temps à ça, à la littérature. Et d'accepter qu'il faut donner de la valeur à ce qu'on écrit. Parce que donner de la valeur, ça veut dire qu'on accepte de prendre le temps de notre journée ou de nos vacances, etc. Et de ne faire que ça. Moi, j'ai avancé dans mon écriture le jour où d'abord j'ai été au chômage, où j'ai commencé à écrire beaucoup. Puis ensuite, j'ai retrouvé du travail et là, j'ai à nouveau arrêté d'écrire. Et ensuite, quand je me suis lancée dans le roman, pour la dernière ligne droite, j'ai quitté mon boulot. Enfin, un de mes boulots, pour pouvoir avoir un peu de temps mental, et voilà, donc je me suis mis au chômage. Et ça m'a permis, j'ai eu le luxe de pouvoir avoir du temps pour pouvoir écrire. Je pense que Poe, c'est un livre qui montre que, en fait, il n'y a aucune raison que nous, nos vies, plus ou moins marginales, n'aient pas droit au chapitre dans la littérature, qu'il n'y a aucune raison qu'on se sente aussi peu légitime à écrire sur nous. Et c'est vrai que moi, des fois, ça m'arrive en m'endormant le soir d'oser rêver que ma vie puisse uniquement dépendre de l'écriture. Je pense que je suis encore convaincue que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, ça me fait rêver. Je pense qu'il y a autre chose qui m'a vraiment touchée dans Poe. C'est une scène dans un essai qui s'appelle « La stratégie du fusil de chasse », qui est une scène où il y a deux femmes qui, du coup, elles sont dans un groupe de parole. Dorothy Allison y est, et il y a une femme qui raconte à quel point elle déteste son père et qui dit qu'elle rêve de prendre un fusil de chasse et de le tuer. Et Dorothy Allison, elle raconte à quel point ça lui a fait du bien d'entendre ça, d'entendre cette femme qui dit à quel point elle déteste son père, parce que son père est un agresseur. Et elle lui dit « Je tuerai votre père si vous tuez le mien. » Et elle raconte le lien que ça crée entre les deux. Et c'est vrai qu'en lisant ça, on se dit que cette question-là d'entraide entre femmes, elle est trop souvent, je trouve, pas mise en avant, quoi. Et c'est vrai que moi, je crois que j'espère... qu'il y ait de plus en plus de livres avec des personnages féminins très riches et très développés qui s'entraident entre elles. Qu'on arrête de mettre ou d'écrire à propos de femmes qui sont en concurrence ou qui se trahissent ou qui se sauvent grâce à un homme qui arrive dans leur vie. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à accepter que des romans peuvent être très bons avec pratiquement que des personnages féminins. Moi, c'est sûr que c'est ça que j'ai eu envie d'entreprendre hein, dans le livre. J'ai eu envie que les femmes lisent ce livre en se disant et le terminent en se disant d'une, je vais le passer à mes copines, et de deux, peut-être que je vais les appeler, je vais voir comment elles vont et je vais voir si je peux faire quelque chose pour elles ou si elles peuvent faire quelque chose pour moi. Ça, c'est sûr que c'était quelque chose que j'avais en tête. Je crois même, en allant plus loin, que les premières personnes pour qui j'ai écrit ce livre, c'est mes copines. Je me rappelle qu'on en a beaucoup parlé. C'est un livre qui n'est pas du tout resté secret, qui a été écrit aussi nourri par toutes les discussions qu'on a pu avoir entre copines, toutes les réflexions, toutes les colères qu'on a eues. Et aussi, c'était un moyen de leur dire, bah, toutes ces discussions-là, on va les faire sortir dans le monde, on va leur donner de la valeur, on va les publier. Et on se disait toujours, oh, bah, si personne ne le publie, ça sera un livre qu'on se passera, nous, entre nous. Ça sera un cadeau qu'on se fait, on aura mis nos histoires sur papier, et voilà. Donc je pense que moi, cette histoire de valoriser les groupes de meufs, quoi, c'est vraiment très important, et ça m'a accompagnée dans Les Orageuses. Et je trouve que le collectif ressort énormément là-dedans. Elle parle aussi d'amis qui dans un des essais, elle parle de ses amis qui viennent tout d'un coup, toutes ces lesbiennes qui viennent l'aider à retaper sa maison. Bon, moi, je crois vraiment que les groupes de meufs peuvent constituer une famille choisie. Si on en prend soin, ça peut être des liens qui sont de l'ordre de la famille, qui sont de l'ordre vraiment de la sororale au sens premier du terme. C'est pas tant que on s'entend pas avec notre famille avec laquelle on a grandi et que du coup on va chercher une autre famille, ça peut. Mais c'est aussi que les familles élargies, d'autres types de liens familiaux doivent pouvoir exister. On doit pouvoir arriver à mettre ça en scène, à les valoriser, à montrer que ces liens-là, en dehors du couple et en dehors des parents, peuvent avoir une importance énorme dans la vie des femmes et de tout le monde. Hein. Je crois que l'une des choses qui m'a marquée aussi sur Po, c'est quand elle dit que les meilleures fictions viennent de l'endroit où se tapit la terreur, à la lisière des pires choses en nous. Je crois qu'elle pose la question de est-ce que les choses les plus dures à écrire, celles qui nous font le plus peur, sont les seules qui vaillent la peine d'être racontées. Moi, je pense pas que ça soit les seules qui vaillent la peine d'être racontées, mais je pense que c'est intéressant d'aller les chercher. Et je sais pas s'il m'a fallu du courage pour écrire ce livre. Moi, je crois plutôt que je me suis pas sentie courageuse, mais je me suis sentie dans l'urgence de l'écrire. Mais en tout cas, par contre, je sais que j'ai eu une facilité à écrire dans un espèce d'état d'esprit, pour le coup, que ça soit en colère, soit mélancolique, et que c'était cet état d'esprit-là qui me permettait d'écrire des pages et des pages. Et c'est vrai que du coup, je pense pas que ça me demande du courage, mais je pense par contre qu'il y a eu un moment donné où j'ai dû choisir et que j'ai dû décider de pas censurer ce que j'avais envie de raconter. Que j'ai dû décider de tout dire et de donner tous les aspects de ce qui me semblait important à dire sur la question du trauma après le viol, sans édulcorer, sans penser à mes parents, sans penser à l'entourage qui lirait, voilà, en me disant ben la vérité c'est ça, et tant pis si ensuite ils projettent, tant pis si ensuite ils se demandent si c'est moi qui suis décrite, voilà, il faut y aller, il faut décrire tout ce que j'ai envie d'écrire. Les livres qui m'ont marqué récemment, c'est quand même un livre incroyable et je pense que c'est vrai que ça a influencé mon projet de roman. C'est ce livre qui s'appelle Dans la forêt de Jean Egeland, qui est un livre incroyable, qui a été réédité récemment, mais qui, pour le coup, illustre très bien la question de la sororité au sens premier, c'est-à-dire que c'est deux sœurs qui se retrouvent à habiter dans la forêt au milieu de l'apocalypse. Et ce livre est incroyable justement sur qu'est-ce que ça veut dire de choisir sa sœur plutôt qu'une autre forme de famille et qu'est-ce que ça veut dire de constituer une famille à deux comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire et je trouve ça vraiment absolument magique. Et un autre livre que je trouve fantastique, c'est Chercher l'enfant de René Denfeld, qui est un livre, qui est un roman policier. Et c'est vrai que moi, je lis énormément de romans policiers. Je trouve que c'est dommage que ça soit pas plus valorisé dans la littérature. Bah, je trouve qu'il y a des trucs incroyables qui sont faits dans la littérature policière. Et donc celui-là, c'est un livre qui a été écrit par une ancienne victime d'inceste, qui est une ancienne fille qui a dû fuir son foyer suite à un beau-père incestueux qui, en plus, évidemment, a nié les faits. Donc elle a pas pu se faire protéger de ses agissements. Et donc elle a écrit deux romans. Peut-être trois, mais en tout cas deux que j'ai lus, dont Chercher l'enfant, qui est fantastique sur justement l'effet du trauma, des violences sexuelles sur les enfants, elle est extrêmement juste. Et je me dis, des fois, ces récits-là, ils sont pas à chercher forcément là où on va les, où on s'attend à les trouver. Vous voyez, c'est un roman policier et il est vraiment, j'ai envie de le conseiller à tout le monde, quoi. Il est ni voyeuriste, il est vraiment juste intéressant. Et ça, je pense que je suis assez contente d'avoir hérité ça de mes parents. C'est que toute forme de littérature est intéressante. Il n'y a pas de hiérarchie. Nous, à la maison, on lisait de tout. Bon, de tout, peut-être très peu de classiques, mais on lisait quand même énormément de choses. Et oui, je pense que ça m'accompagne encore. Sur cette question de justesse et de quelle vie on a le droit de mettre en mots et en livres. Il y a un autre livre qui est incroyable, et là, je vois, si je me tourne, je le vois sur ma bibliothèque, et si je le prends, je crois qu'il y a encore les traces de mes larmes sur les derniers... Oui, sur les dernières pages, parce qu'il est très très triste, enfin, la fin est très triste. C'est un livre qui s'appelle « Une vie comme les autres » de Anya Yanagihara. C'est un livre incroyable, qui raconte quelque chose. Alors ça va vous paraître étrange parce que c'est l'histoire de quatre hommes, hommes qui sont amis depuis l'université aux États-Unis, à New York. Et il y a un des hommes qui a été victime d'un traumatisme pendant l'enfance énorme. Et du coup, c'est un des romans les plus justes et les plus incroyables sur qu'est-ce que c'est que l'amitié. C'est un roman très honnête sur qu'est-ce que c'est que le traumatisme sexuel, le traumatisme de la violence sexuelle. Il est splendide, il est très dur à lire, moi j'ai trouvé, mais il est vraiment incroyable. C'est des hommes vulnérables, c'est des hommes dont la sexualité est fluide. Vraiment, je pense que des livres comme ça, il y en a très peu. Et ça vraiment, ça dit des choses qui sont très peu dites, qui sont très peu représentées, voilà, comment... Des amitiés d'hommes peuvent se transformer en histoire d'amour, comment des hétéros peuvent cohabiter avec des homos, comment on peut être un homme et avoir été violé dans l'enfance, et qu'est-ce que ça a comme conséquence. Vraiment, je trouve que c'est splendide, et voilà, ça c'est vraiment un livre que je conseille, tout en mettant comme bémol que moi j'ai trouvé ça vraiment dur à lire, mais en même temps vraiment splendide si on se sent de le faire.
Vous venez d'écouter Marcia Burnier à son micro et elle répondait aux questions d'Oriane Olivier. Elle vous recommande le livre « Peau » à propos de sexe, de classe et de littérature de Dorothy Allison, réédité aux éditions Cambourakis dans une traduction de Nicolas Milon et Camille Olivier. Marcia Burnier est écrivaine. Son premier roman, « Les Orageuses », vient de paraître aux éditions Cambourakis. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Cette semaine, notre nouveau podcast d'Histoire vraie sort. Il s'appelle « Passage » et questionne la pluralité de nos points de vue. Vous pouvez le télécharger sur toutes vos applications de podcast préférées. Bonne écoute et à très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
The Claude 3 model family from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point on the price-performance curve, you no longer have to make trade-offs between intelligence, speed, and cost. Claude 3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence, Sonnet strikes the perfect balance between skills and speed, and Haiku is the fastest and lowest-cost model on the market, perfectly designed for high-volume, high-speed use cases. Join the thousands of enterprises who trust Anthropic to keep them at the frontier. Visit anthropic.com/Claude today.